the shelter. All funds go directly to the Native Women's Shelter of Montreal towards their second stage housing project and Saradikitak Social Pediatric Clinic. Join us for fun, community-driven, even including musical performances generously supported by CKUT. Everyone is welcome. Bring your friends, family, and pets and come walk with us. Follow our Instagram at SpiritWalkMTL for links to register and for more information.
Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale afin de souligner le 25e anniversaire du Réseau des lesbiennes du Québec qui sera célébré le 18 juin prochain dès 13h aux Archives nationales à Montréal avec un an de retard à cause de la pandémie, évidemment. Pour celles qui ne connaissent pas le Réseau des lesbiennes du Québec, le RLQ est un organisme national en action communautaire autonome qui œuvre au niveau de la défense collective des droits depuis 1996. Il regroupe les femmes de la diversité sexuelle et représente ces femmes de toutes les régions du Québec, de tous les âges, de toutes les classes sociale, de toutes les communautés culturelles et de différents points de vue politiques. Le réseau agit à titre de porte-parole et d'interlocuteur auprès des instances décisionnelles, tant politiques que sociales, relativement à la qualité et aux conditions de vie des lesbiennes. Il est le seul organisme communautaire en défense collective des droits qui représente exclusivement les femmes LGBTQ2S+, du Québec, qui aiment les femmes et il détient une expertise considérable. Dès sa fondation en 1996, le Réseau des lesbiennes du Québec émerge d'une volonté d'offrir une voix autonome sur la place publique aux lesbiennes québécoises. La genèse de l'organisme s'inscrit lors des États généraux des communautés gays et lesbiennes du Québec, alors qu'une trentaine de femmes décident de se rassembler afin de former un comité provisoire. J'ai participé aux audiences publiques de l'illégalité à l'égalité en 1994. Je m'étais exprimée pour le volet jeunesse et en 1996, j'avais 23 ans lorsque je me suis impliquée au sein du RLQ qui regroupait des femmes très politiques, d'autres plus artistiques et avec lesquelles j'ai beaucoup appris en les écoutant débattre sur différents sujets et points de vue. Et notre première invitée fait partie de ces femmes inspirantes. Elle possède la carte de membre 001 du Réseau des lesbiennes du Québec. Nous avons le plaisir de recevoir Nicole Lasselle, présidente du conseil d'administration du RLQ. Nicole a aussi été chroniqueur à la Revue 13 pendant 5 ans et elle a présidé l'Assemblée de fondation du Réseau des lesbiennes du Québec en 1996. Elle est sociologue de formation et consultante auprès de groupes de femmes, de groupes communautaires, d'institutions publiques, d'ordres professionnels et d'organismes privés, notamment à titre de présidente d'assemblée et d'animatrice professionnelle tant au Québec qu'à l'étranger depuis plus de 30 ans. Elle est l'auteur de 3 livres et d'une centaine d'articles. Elle est également l'une des fondatrices des éditions du Remue-Ménage et elle est l'une des 4 ambassadrices du 25e anniversaire du RLQ. Et je suis très heureuse qu'elle soit avec nous ce soir. Bonsoir, Nicole Lasselle.
Allô, comment ça va, toi?
Ça va bien. Merci beaucoup d'être là.
C'est un plaisir.
Il y a beaucoup de chemin parcouru quand même depuis 1996. Quels sont les souvenirs que tu gardes des débuts du RLQ?
Oh mon Dieu, tu m'en poses une. D'abord, parce que en 96, au moment où le RLQ a été officiellement fondé, c'était quand même, ma mémoire n'est pas précise, mais quand même plusieurs années de discussions et de débats qui faisaient en sorte qu'on ne fondait pas le RLQ. Il n'y avait pas d'unanimité dans le milieu militant, disons. Et à cet égard, pour nous qui voulions une association, la Fondation 96 était une extraordinaire victoire parce qu'on avait réussi quand même à convaincre une bonne majorité de lesbiennes qu'une association ne serait pas un moins, c'est-à-dire d'une certaine façon couper la spontanéité militante, mais au contraire, donner des assises plus larges et surtout en se faisant connaître, aller chercher d'autres lesbiennes qui n'étaient pas dans les cercles militants, mais qui voulaient faire leur contribution. Alors, c'était quelque chose, 1996, c'était une grande, grande, grande victoire.
Oui, puis quelles sont, selon toi, les plus grandes avancées de notre communauté?
Oh my God, là aussi, tu m'en demandes. Les plus grandes. Ça dépend des points de vue, hein. Dans le sens où, moi, j'ai jamais pensé, mais ça, on parle de moi-même, là, pas du RLQ. J'ai jamais pensé, par exemple, que l'accès au mariage était une très bonne chose. Parce que j'étais contre cette institution. Et donc, de l'avoir gagné pour moi, disons que je me réjouissais pour toutes les personnes qui le voulaient. Mais je trouvais que, en gros, les actions qui visaient toujours plus d'inclusion n'avaient pas dans leur discours, dans la façon de l'avancer et de le chercher, une critique de ces institutions-là. Parce qu'on peut vouloir avoir accès à une institution pour des raisons tout à fait légitime et ô combien importante, comme par exemple l'immigration, c'est qu'une femme puisse marier son amoureuse et la faire immigrer, c'est merveilleux ça.
Oui.
Alors, tu sais, pour moi, il y avait beaucoup de nuances, mais on n'entendait pas ces nuances-là tellement, tellement, et ça a été vécu généralement comme une grande, grande victoire. Pour moi, ben c'était une petite victoire, un exemple.
Oui.
Alors, c'est sûr que quand on a un œil plus critique, ce qui a toujours été mon cas, et pas toujours à raison, hein. Des fois, là, je me trouvais un petit peu fermée, disons. Mais c'est certainement, au point de vue légal, la plus importante des dernières années. Évidemment, c'est beaucoup plus important, le Bill Omnibus à Ottawa et la Charte des droits à Québec.
Oui.
Beaucoup plus important dans leur étendue. Et ça, personne n'était en désaccord.
Effectivement.
Mais c'est quand même extraordinaire qu'à peu près 100 mouvements militants très apparents, le Québec l'inclut grâce, il faut bien le dire, aux relativement nombreux ministres homosexuels qu'il y avait dans le gouvernement de M. Lévesque, que nous soyons inclus dans la Charte des droits. C'est une avancée extraordinaire, sans pour autant être une victoire du mouvement, si on peut dire, parce qu'à ce moment-là, il n'existait presque pas. Mais, oh mon Dieu, que c'était important, puis on leur doit une pierre chandelle de ne pas avoir eu à se démener pour quelque chose d'aussi fondamental. Mais disons que, ben c'est ça, tu sais, nos victoires ont toutes sortes d'aspects et à la fois un côté d'acceptation telle qu'elle est de notre société, qui, pour moi et pour le RLQ, est loin d'être parfaite. Mais, ben c'est ça. Je fais partie des militantes qui ont toujours quelque chose à dire et qui dépriment les autres parce qu'ils disent, ben tu peux pas être contente simplement comme tout le monde. Ben non, je peux pas être contente simplement comme tout le monde.
Parce qu'il reste des choses à faire.
Parce qu'il reste des choses à faire et surtout parce que souvent, ce qui a gagné est mis de l'avant par du monde plus conservateur, disons, appelons ça comme ça, et qui ne veulent qu'être acceptés. Ça n'a jamais été du côté du RLQ, dès la fondation d'ailleurs. Le principe, c'était pas d'être accepté, c'était de changer la société pour qu'elle devienne plus juste. Et donc, que nous soyons plus acceptés, mais avec des guillemets, c'est plus que notre société comprenne que l'adversité est un plus, que ces minorités sexuelles et politiques sont un atout, un ajout. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement nous qui devrions être à la tête de cette société-là, mais ça veut certainement dire qu'elle ne doit pas juste dire « OK, d'abord, on va arrêter de vous harceler. » C'est pas ça le but.
Mais l'idée, c'est pas de se fondre dans la masse, mais de garder nos spécificités aussi.
Ben exactement.
Mm-hmm.
Spécificités qui ont été gagnées de haute lutte et du temps où cela était courant, c'était encore le camp 96, une vie surtout nocturne, différente de celle des autres. Parce qu'on sortait dans les bars et on avait un grand, grand plaisir à s'y retrouver, ce qui n'existe pratiquement plus maintenant. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'on avance.
Oui.
Et le RLQ est là pour nous faire avancer autant qu'on peut. Hein. On n'a pas toutes les capacités. Et aujourd'hui, politiquement, je pense qu'on peut dire je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais je pense qu'on peut dire que notre communauté ou nos communautés sont très, très variées politiquement. Avant, à cause d'une oppression beaucoup plus grande, tout le monde était entre guillemets à gauche. Tu sais, parce que cette oppression était très forte, alors par définition, on était militante. Ce n'est plus le cas maintenant.
Puis est-ce que tu es resté impliqué pendant toutes ces années, d'une façon ou d'une autre, au sein du RLQ?
Non. À ce moment-là, j'étais pas, comment dire, pas impliquée. C'est dans le sens où j'étais toujours membre, et puis, mais je militais pas au RLQ. Je travaillais très, 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 très fort. Mais j'ai toujours été, disons, dans les événements, tu sais.
Tu es sociologue de formation. Quel constat fais-tu de la place que les lesbiennes occupent en 2022, socialement, mais aussi au sein de la communauté LGBTQ2S+?
Écoute, c'est sûr que on n'a pas réglé du tout la question du L dans le LGBT, machin. Quand je le marmonne, là, c'est pas par manque de respect, là. C'est que je suis toujours un peu intimidée. Est-ce que j'ai toutes les lettres, tu sais?
Oui.
Fait que c'est pour ça que je le marmonne, mais c'est pas par manque de respect. C'est que...
Il y en a beaucoup.
Oui, il y a beaucoup, 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 beaucoup. Et évidemment, pour une vieille lesbienne, c'est un problème. C'est un problème, non pas de diversité, parce que chaque façon d'incarner notre vie a son importance. Par contre, la grande évolution qui s'est passée, c'est qu'on est passé du collectif à l'individuel. Et quand je dis ça, c'est pas nécessaire. Évidemment, je trouve que collectif, c'est mieux. C'est ma façon d'être. Je vais avoir 75 ans là, cet été. Mmh. Mais le côté individuel a sa profondeur. Le problème, c'est qu'à se demander qui suis-je exactement, on se demande pas de quel bord je suis. Pourquoi est-ce que je veux lutter? Avec qui? Avec quels grands objectifs? Ces questions-là, c'est pas toutes les jeunes qui se la posent. Ils se posent toute la question « qui suis-je? » Ah, franchement, nous autres, on se la posait pas des tonnes « qui suis-je? » Au sens où, parce que ça transparaissait, ben, on était opprimés. Le nombre de femmes que j'ai connues dans la vingtaine et la trentaine qui ont été déshéritées par leur famille, dans certains cas, ça ne voulait pas dire grand-chose, mais dans d'autres cas, oui, absolument. Exclues, maltraitées, puis invitées aux fêtes de famille, ou si invitées, recevant toutes sortes de propos disgracieux. C'était plein. On n'entend plus autant ça maintenant. Une chance.
Oui.
Par contre, cette expérience te montrait que c'était pas une affaire individuelle. Ton attrait pour les femmes était vécu comme collectivement répréhensible. Et donc, accès au collectif tout de suite, automatique. C'était pas nécessairement pour une bonne raison, mais la dimension collective était toujours là. Alors que maintenant, on rencontre plein de jeunes lesbiennes, de jeunes bisexuelles, même certaines transsexuelles qui sont axées sur « qui suis-je? ». Donc, la dimension de lutte est comme une lutte pour obtenir qui je suis, apparemment en tout cas, par opposition à une libération collective. Et ça, pour la vieille lesbienne que je suis, évidemment, c'est problématique.
Puis vous aviez aussi le mouvement féministe qui était très fort dans les années 70, où les lesbiennes ont beaucoup milité aussi.
Beaucoup, énormément, dont moi, parce que notre raison profonde, c'était que en choisissant les femmes, ben, on choisissait les femmes. Et à cet égard, toute injustice à toutes les femmes était une injustice à notre égard. Et là, tu touches un point très, très important qui est la politique de la majorité ou de la minorité. C'est très attirant, et moi-même, j'ai été attirée, d'être dans un mouvement politique majoritaire. Donc, il y a des chances, entre guillemets, très fortes de finir par gagner. Quand tu es dans un mouvement minoritaire, ta chance de changer la société, tu l'aperçois comme plus fragile. C'est tout à fait normal.
Ouais.
Alors, cet engouement qu'on avait pour l'ensemble du mouvement des femmes, je l'ai d'ailleurs moi-même encore. Pourquoi? Parce que nous sommes la majorité et d'être mis toujours comme si avec toutes les minorités, il y a la minorité femme, ben c'est une minorité de 50, presque 1% de la population. Alors, tu sais, on a vu des minorités plus minoritaires. Hein? Donc, c'était très important, comme tu le soulignes, cette cohabitation, on s'est rendu compte, par contre, que autant le mouvement des femmes dans son ensemble était inclusif et nous voulait là, mais aimait pas trop qu'on parle. Et ça, c'est devenu véritablement un problème. Les femmes noires le constatent, les femmes autochtones le constatent, que c'est une chose que d'être assises à la même table, c'est autre chose de tenir les propos qui nous sont propres. Et comme tout mouvement majoritaire, le mouvement des femmes a quand même eu et a encore des problèmes, non pas à nous accepter, on est plus que bienvenus, mais à nous écouter et à changer un certain nombre de leurs propos.
Parce que les femmes lesbiennes étaient très impliquées, même pour le droit à l'avortement. Ils ont beaucoup appuyé les femmes, mais de leur côté, est-ce que les féministes hétérosexuelles appuyaient les luttes que les lesbiennes mettaient de l'avant?
Plusieurs, oui, définitivement. Oui. Plusieurs. Mais d'abord que c'était, comment dire, en dehors d'elles. C'est dans le sens où, si on disait, nous autres, on va former un comité de lesbiennes ou un collectif de lesbiennes, puis on va faire telle affaire, en règle générale, il y a eu des exceptions, mais en règle générale, on était appuyés. Mais c'est assise à la même table, au nom de l'ensemble du mouvement, où ça posait problème. La sexualité en était un extrêmement important, évidemment, parce que la position objective des femmes hétérosexuelles, pour qu'ils puissent la supporter. En tout cas, ça, c'est mon interprétation. Hein? Toutes mes excuses à celles qui s'en offenseraient. Mais pour supporter un certain nombre des contraintes de l'hétérosexisme et l'hétérosexualité institutionnalisée, il faut fermer les yeux. On est toutes de même. T'sais, pour supporter une situation difficile, on est obligé de choisir ses batailles, comme on dit. Cela étant, pour nous, souvent, c'est qu'elles se fermaient des yeux carrément à leur exploitation, c'est-à-dire les femmes qui prennent soin des petits, les femmes qui vont à l'école, les femmes qui n'en retirent pas un sou noir, qui travaillent doublement, triplement, et aujourd'hui, avec l'augmentation de la cadence sociale, quadruplement, quasiment, on pourrait dire, tellement les femmes travaillent fort. Et rien de ça ne leur revient en termes financiers ou en termes d'estime. Fait que c'est pas facile, ce boulot.
Non, puis il y avait probablement aussi une peur de passer pour des lesbiennes, parce que déjà d'être féministe, c'était gros dans la société. Est-ce qu'il y avait une peur?
Oui, les toutes premières, ça pourquoi il y a eu un bon nombre de lesbiennes, quoique c'est faux de dire, et ça a été dit souvent, qu'on était majoritaire, par exemple, dans les groupes pour l'avortement ou les éditions du Remue-Ménage ou la clinique de santé des femmes. Les hétéros étaient majoritaires et ont milité. On leur a rien enlevé à ce titre. Elles ont vraiment gagné leurs épaulettes. Ce qui était différent, c'est que nos camarades avec qui on militait se disaient souvent lesbiennes politiques, par exemple, et disaient, s'ils sont pour dire qu'on est lesbiennes, mais on va le dire d'autres aussi. Alors que c'est pas vrai du tout. C'était okay. Par solidarité. Ça, c'était les toutes premières années de la deuxième vague du féminisme au Québec, appelons ça comme ça. Et là, pour nous, ça posait pas de problème. Évidemment, vu de maintenant, beaucoup ont pu dire « les lesbiennes ont bâti le mouvement des femmes, c'est pas vrai partout. » Les lesbiennes y ont contribué grandement, mais parce qu'on y voyait notre intérêt, toujours dans cette vision de la politique de la majorité qui a plus de chances d'obtenir des choses que la minorité. On n'avait pas toujours raison, mais c'était ça notre logique. Mais de dire qu'on a fait plus que les autres, pas du tout. On a fait beaucoup, mais dans un contexte où on était toutes traitées de lesbiennes. Alors, les hétéros, ça les énervait pas. On était sortis du mouvement étudiant, on était sortis de mouvements politiques, de mouvements syndicaux. À cet âge-là, on était déjà des militantes aguerries, tu sais. Et donc, se faire traiter de lesbienne pour mes amis hétéros, là, c'était à Menzas. C'est pour avoir trouvé d'autres choses. Ça les dérangeait absolument pas. Okay. C'est la deuxième génération, si on peut dire, qui était dérangée par ça, parce que c'était pas des militantes aguerries au point de départ. Mm-hmm. Fait que tu sais, il faut faire un petit peu de nuance. Est-ce qu'on a énormément contribué au développement du mouvement des femmes? Absolument. Est-ce qu'on le fait sans les hétéros, ou en tout cas majoritairement? Pas du tout. Mm-hmm.
Mais c'était ça la force collective, en fait. C'est que les femmes se sont toutes mises ensemble pour faire
Oui,
avancer. Là.
exactement. On en avait marre. Marre, marre, marre. C'était assez. On était une génération instruite. Puis quand je dis instruite, je veux pas dire nécessairement celles qui sont rendues à l'université. Je veux dire, on est allé à l'école. Puis on a appris des affaires. Et on avait des ambitions de travailler avec des salaires qui avaient du bon sens et à un job qui n'était pas complètement aliénante. On savait que travailler, c'est travailler. Mais je veux dire, on pensait qu'on avait le droit à quelque chose d'intéressant, là, nous autres. Peu importe notre niveau d'instruction. Fait que ça fait beaucoup de facteurs, tu sais. Et tout ça, c'est le background de la fondation du RLQ.
En 96.
En 96, exactement.
Oui, puis vous êtes beaucoup de cette génération-là à avoir formé cet organisme du RLQ.
Ah, absolument. Oui, 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 c'était notre monde, ça, là. Pas notre monde exclusivement, parce que il y avait un certain nombre, comme je te disais tantôt, de lesbiennes qui n'étaient pas d'accord pour fonder une association qui penserait que, par définition, elle serait réformiste et pas authentique. À cet égard, ils n'ont pas eu entièrement tort tout le temps, mais il reste que nous croyons et je crois encore qu'il faut se regrouper pour constituer la moindre force. Parce que chacune dans son coin, les capacités de changement sont pas très grandes. Or, pour nous, changer la société, par opposition à y être intégré, c'était ça le but.
Mm-hmm. Merci beaucoup, Nicole Lasselle, pour cette belle conversation. Puis au plaisir de célébrer ces 25 ans à tes côtés le 18 juin prochain.
Oh, mais t'es donc bien fine, Nathalie, mais merci beaucoup de m'avoir laissé autant de jeux pour m'exprimer. Lesbosson, c'est une belle émission et une autre de nos belles traditions.
Merci beaucoup.
Bye.
À bientôt. Bye.
Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche. Suis ton cœur.
écoutez Lesbosson sur les ondes de CKUT 90.3 FM. Je tenais à recevoir Suzanne Boisvert pour cette émission spéciale 25e anniversaire du Réseau des lesbiennes du Québec parce que Suzanne faisait partie du spectacle du congrès de fondation du RLQ en 1996 avec les Tribades. Et Suzanne Boisvert est une artiste transdisciplinaire œuvrant en art communautaire depuis plus de 25 ans et elle est également chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski. Bonsoir Suzanne Boisvert.
Oui, bonsoir Nathalie.
Je suis très heureuse que tu aies accepté l'invitation.
Ben, je suis contente d'être là. Un peu surprise de te voir popper comme ça, mais ça fait plaisir.
Ce spectacle dont tu faisais partie avec les Tribades lors du congrès de fondation du RLQ a rassemblé plus de 450 femmes lesbiennes en 1996. Dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles de cette troupe, les Tribades.
Ben, c'était pas une troupe.
Ah non?
Ben, c'était un groupe, une collective. Okay. À l'époque, on disait multidisciplinaire. C'est ce terme qui a évolué, transdisciplinaire, fondé en 1984, dans un autre millénaire. Fondé par moi, puis deux étudiantes à l'époque, comme moi, en théâtre à l'UQAM. On est parti en traitant le département de théâtre d'hétérosexiste, puis on a fondé ce lieu de création, inspiré de la longue tradition des salonnières dans l'histoire des femmes. Et voilà, et puis notre idée, ça a toujours été de mettre, ça nous intéressait d'explorer autre chose qu'un rapport scène, salle, artiste, spectatrice, etc. C'est pour ça qu'on utilisait le terme salonnière. Donc, il y avait autant des artistes dites professionnelles que des lesbiennes ou des femmes qui s'identifiaient ou qui s'alliaient aux lesbiennes qui avaient envie de passer par l'art pour explorer des dimensions de leur existence lesbienne, leur vie avec les femmes, etc. Et puis, différentes disciplines. Les Tribades, on a eu un lieu à l'École Guilford de 84 à 89. Puis après ça, on était comme des électrons libres. On faisait des productions, des performances, toutes sortes d'activités en dehors de l'École Guilford qu'on avait quittée. On a fait donc plusieurs des artistes qui avaient participé au Salon des Tribades ont fait partie du congrès de fondation. C'était comme tout à fait logique, tout à fait cohérent que quand le RLQ s'est formé, on s'est proposé pour faire la conception d'un spectacle qui lancerait le congrès et puis qui pourrait, de façon artistique, poétique et politique, lancer des conversations pendant le congrès de fondation.
Et quel souvenir gardes-tu de cette soirée du congrès de fondation du RLQ?
Ah, c'était électrisant. On était dans un lieu atypique, non prévu pour faire des shows. J'étais avec ma grande complice. J'ai fait la mise en scène, la dramaturgie, etc., avec la complicité de Manon Choinière, mais aussi toute une équipe de co-conceptrices. Puis on a travaillé pour 4 mois sur ce spectacle-là. Puis wow. Pendant une semaine, on a occupé ce lieu-là. C'était immense, là, c'était totalement fou comme projet, là. On avait comme 2 scènes reliées par une rampe. Ça faisait 80 quelques pieds de long. Et une équipe de... J'ai le texte devant moi. J'ai fouillé dans mes archives avant de te parler.
Okay.
On était une équipe de 22 lesbiennes, dont 16 sur scène. Des danseuses, des chanteuses, des conteuses, des poètes. C'était vraiment formidable. Alors, c'est un spectacle qui était conçu. On tressait les genres, c'était de la poésie, de l'humour, de l'histoire, très politique et très poétique dans un savant mélange à la Tribade. C'était pas celles qui ont vécu quelques-unes de nos performances. Vous savez ce que je veux dire par là, mais disons très très éclaté en termes de forme, pas du tout didactique, mais vraiment très fait appel à l'imagination, qui interpelle les personnes dans la salle, les lesbiennes dans la salle, et je le crois, on nourrit beaucoup les conversations, les discussions, les échanges durant les 2 jours suivants. Là. On mettait beaucoup, notre focus était, on se crée un réseau des lesbiennes avec comme une visée vers l'avenir, mais il faut ne pas oublier d'où l'on vient, d'où on vient, donc dans la diversité des moments historiques à la fois à la fois extrêmement, des moments très subversifs, des moments jouissifs, mais des moments aussi tragiques ou en tout cas très difficiles. Et puis on tressait toute cette espèce de texture-là dans le spectacle aussi. Puis je pense que c'était vraiment un grand moment là. C'était certainement une de nos plus grosses productions qu'on a fait là, en termes du nombre d'artistes, puis aussi des moyens qu'on s'est donnés.
Absolument, c'était extraordinaire ce spectacle-là. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de monde.
Oui, ben toi, tu étais là.
J'étais là.
Ben oui.
Toute jeune.
Tu peux en témoigner, ce que ça faisait.
Oui, j'avais 23 ans, donc...
Oui, je me rappelle, j'étais toute jeune.
Mais j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire comme spectacle.
Oui, et puis Manon Choignard qui manipulait les images. Il y avait plein d'images diapo. On avait des appareils diapo dans ce temps-là.
Oui.
Elle était juchée parce que ça se passait dans un gymnase. Elle était juchée dans les espaliers sur une patente à gauche. Là. En tout cas, je sais pas comment elle a survécu à ce show de presque 2 heures. Là, mais c'était vraiment très athlétique. Comme il y avait, je pense, plus de place pour même un seul pied de plus dans ce gymnase. Alors, c'était un beau un souvenir artistique et politique qui est très cher à mon cœur. Alors, ça m'a fait plaisir que tu me le rappelles.
Oui, ben moi, je me souviens que ça m'a marqué, puis je pense pas avoir revécu un événement pareil depuis 25 ans.
Ouais.
C'est quand même historique comme événement. Vous étiez très active au Québec, mais vous avez voyagé aussi avec les Tribades. En 98, vous avez présenté le Salon des Tribades à Paris. Qu'est-ce qui est ressorti de cet échange culturel?
Ouais. C'était à Paris, oui, dans le cadre de l'équivalent de la semaine de Fierté Gay. Okay. C'était à la Maison des Femmes. Ah, c'était vraiment, vraiment cool. Et puis, nous, ça faisait quelques années qu'on n'était pas officiellement comme tribal, même si des membres des tribales faisaient des trucs. On a profité de l'occasion, avant de partir à Paris, faire un salon des tribales à Montréal. Puis, on est parti à la rencontre des lesbiennes à la Maison des Femmes. C'était vraiment une belle rencontre et de retrouver l'esprit des salons des tribales aussi. Puis d'être à Paris, je veux dire, c'était assez mémorable comme rencontre. Rencontrer des plasticiennes, des lesbiennes radicales, des lesbiennes poétiques, des poètes, etc. Ça a été très, très riche comme rencontre. Il y avait Jim qui était là, d'ailleurs, tu pourrais lui demander... de t'en parler, de ce moment-là, Manon, moi, c'est ça. Alors, on a monté quelque chose vraiment pour partager la richesse des cultures lesbiennes de Montréal avec nos amies françaises. C'était fort comme moment, ça.
Et est-ce que tu continues encore aujourd'hui, dans ton art ou dans ton enseignement, à parler de nos réalités?
Ben, moi, je te dirais que j'occupe les interstices des lieux où je vais, des lieux institutionnels où j'œuvre. Je suis chargé de cours à l'Université du Québec à Rimouski, dans le département psychosociaux, mais là où il y a une grande place laissée aux arts. Alors, ça fait partie de... C'est toujours visible et je partage ma passion pour l'histoire aussi, puis des histoires tressées de nombreuses luttes ou de nombreuses luttes sociales, là, quoi. Et puis, je travaille auprès d'adultes, mais aussi de jeunes adultes, des jeunes étudiantes ou étudiants qui s'intéressent beaucoup à l'histoire puis qui ont de la difficulté à trouver ou c'est pas encore sur leur chemin. Alors, je me donne pas mal comme mission d'aiguillonner pour justement encourager les jeunes à se relier à une histoire qui est longue, qui est très longue. Et il y a plus de moyens aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque.
Tu sais. Oui.
Il y a plus de chances de trouver des archives, des photos, des textes, etc. C'est quelque chose dont je me fais la poète, je dirais, dans les milieux où je suis. Je travaille aussi beaucoup en communauté, beaucoup dans le milieu des centres de femmes ou les milieux communautaires. Et c'est toujours présent aussi, évidemment. Mais c'est toujours je dirais que j'ai gardé dans mon cœur beaucoup avec cette idée du continuum lesbien d'Adrienne Rich, tu vois. Et c'est comme une perspective qui est bien reçue. Parce que c'est une façon d'ouvrir son cœur à l'existence de l'autre. Si je me permets d'exister, je te permets d'exister. Et surtout, je te permets de te rêver. Alors, c'est un peu comme ça que je travaille. Et puis, c'est ce que je continue de faire à 60 ans, bientôt 61 ans.
Génial.
Alors, ouais.
Merci beaucoup, Suzanne, d'avoir participé à cette émission-là. Est-ce qu'on peut espérer de te voir le 18 juin au 25e anniversaire du arrêt de caisse? Est-ce que tu seras à Montréal?
Non, je vais être à Rimouski, mais okay. Je serai avec vous de tout cœur. Puis je demanderai à mon espionne préférée, Jean Bergeron, de me tout me raconter.
Super. Je te remercie pour le travail que tu continues de faire et que tu as fait dans la communauté.
Je te remercie et je te retourne la gratitude à toi aussi, Nathalie.
Merci, Suzanne.
Alors, belle suite et à bientôt.
Oui, à très bientôt. Merci beaucoup.
OK, salut. Bye bye.
Je m'appelle du nom de la première sorcière brûlée en 1258.
Je m'appelle du nom des 7 millions de sorcières brûlées vives jusqu'en 1782.
Je m'appelle du nom de chacune des héritières de ces sorcières.
Je m'appelle Pauline Julien.
Je m'appelle Anne Sylvestre.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois.
J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant.
Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour.
Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort.
Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur.
Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison.
J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons.
Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant.
Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans.
Ce n'est que moi,
c'est elle ou moi.
Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie.
C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux.
Et c'est mon cœur
ou bien le leur.
Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue.
Celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard.
Et c'est ma mère
ou la vôtre,
une sorcière comme les autres.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend.
S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà.
Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante.
Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez.
Vous m'avez aimée putain et couverte de satin.
Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue.
Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut.
Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus.
Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux.
Me voilà comme une église, toute la honte dessous.
Ce n'est que moi,
c'est elle ou moi.
Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat.
C'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton.
Et c'est mon cœur
ou bien le leur.
Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts.
Celle qui danse et qui en meurt, fille d'asphalte ou fille fleur.
Et c'est ma mère
ou la vôtre,
une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent.
Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur.
J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant.
J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux.
J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière.
J'étais le seul sous vos pas, et je ne le savais pas.
Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus.
Le sol se rompant découvre des richesses inconnues.
À son tour divague de violence inemployée.
Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyée.
Ce n'est que moi,
c'est elle ou moi.
Et c'est l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui cède ou se défend.
C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour de combat.
Et c'est mon cœur
ou bien le leur.
Celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend.
Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel.
Et c'est ma mère
ou la vôtre,
une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît,
s'il vous plaît, faites-vous léger.
Moi, je ne peux plus bouger.
Notre invitée, Jeanne Bergeron, a commencé à jouer au théâtre à l'âge de 16 ans. Elle est aussi musicienne. En 1998, elle participait au Salon des Tribades à Paris. Depuis 2008, elle enfile les premiers, deuxième et troisième rôles. On peut l'apercevoir dans quelques publicités à la télévision et aussi dans l'excellente émission « M'entends-tu ?». Elle donne aussi des ateliers d'ostéophonie. La voix parlée et chantée a pris beaucoup de place dans sa démarche artistique. Elle a d'ailleurs participé au spectacle du congrès de fondation du RLQ en 1996. Bonsoir, Jeanne Bergeron.
Bonsoir Nathalie.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Ça me fait plaisir.
Le 18 juin prochain, on va célébrer les 25 ans du RLQ. D'ailleurs, nous avons fait la page couverture du magazine Gazelle en 1996 pour un article sur le RLQ avec 7 autres personnes qui étaient impliquées au sein du RLQ, dont Manon Chouanière, Christina Schneider, Lise Fortier et Safo Morissette, qui malheureusement n'est plus. Quel souvenir gardes-tu des premiers balbutiements de cet organisme?
Ben, moi, je me souviens surtout des mois qui ont précédé justement le congrès de fondation parce que, tu sais, on avait quand même des réunions mensuelles. Ben, tu étais là, toi aussi d'ailleurs, hein, c'est en retrouvant la page du Gazelle que j'ai vu, je me suis dit, oh, on était jeunes. Donc, c'est ça, je me souviens plutôt des mois précédents parce qu'il y avait des discussions quand même, on était beaucoup, on était, il me semble, mais au congrès de fondation, on était plusieurs encore, mais c'est quand même assez intense, en fait. Je me souviens peut-être de l'intensité, puis tu sais, on sait c'est quoi quand t'es un groupe, une gang, un collectif, plusieurs personnes, on pense pas nécessairement tout pareil, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça, c'est une espèce de mélange de toutes ces pensées-là qui vont venir former quelque chose. Parce que, tu sais, il y avait, est-ce que c'est une coalition? Est-ce qu'on devrait appeler ça une coalition, un réseau, un groupe, un machin? C'était tout ça. Fait que c'est, ils nous trouvaient bonnes quand même, tu sais, en se remémorant tout ça, là, je me dis, c'est comme, c'est fait, c'est ça, beaucoup de pensées, beaucoup d'interactions, tu sais, si on parle de, ouais. Congrès de fondation, oui, c'est ça, c'est mes souvenirs.
Tu étais d'ailleurs très impliquée au niveau artistique. Je pense que tu faisais partie de ce grand spectacle du congrès de fondation en 1996 aussi.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours eu j'ai souvent eu un pied un peu dans la politique, dans la pensée, mais beaucoup dans le spectacle aussi, parce que c'est un peu de là où est-ce que je pense que j'ai un meilleur potentiel là, disons. Mais quand même, oui, c'est ça. Donc, j'étais impliquée. Oui, on jouait, on faisait partie du spectacle. C'est Suzanne Boisvert qui coordonnait toute cette grande. Puis, ça a été fait vraiment avec ampleur. C'était dans le local, enfin, c'est pas un local, c'est une espèce de gymnase qui était sur la rue Sherbrooke. Oui, c'était un institut à l'époque. Je sais plus comment trop appeler ça maintenant. Mais c'était très vaste et très grand. Alors, écoute, c'était phénoménal parce que tu auras un invité qui pourra en parler mieux que moi un peu plus tard peut-être, mais donc Suzanne Boisvert, parce que la scène était immense, on avait déployé, non, c'était géant, c'était gigantesque, il y avait je sais plus combien de 450 dans la salle, je pense.
Oui.
C'était vraiment fabuleux, ça je me souviens, la musique et tout, je trouve que les lesbiennes, on s'organisait des spectacles. T'sais, on a souvent fait, tu sais, moi, quand j'étais avec les troupes de théâtre, on faisait nos décors, on fabriquait nos décors. On était beaucoup, puisqu'on était un peu toujours en retrait, qu'on voulait pas nécessairement être reconnue parce que c'était pas être lesbienne, tu criais pas sur tous les toits. Aujourd'hui, la différence, c'est que tu peux le dire sans être trop menacé, tu sais, c'est comme ouvert, c'est permis. C'est ça un peu la différence. En même temps, ben c'est pas que ça, mais
par rapport au fait d'être lesbienne, c'est que nous, on faisait nos propres shows, nos propres affaires, parce qu'on sait qu'on voulait pas que ce soit nécessairement diffusé partout, parce que, je veux dire, tu sais, être lesbienne, tu sais, les gens, les femmes, les lesbiennes travaillaient dans différents milieux, fait que tu voulais pas te faire voir, fait qu'on, il y avait pas de photos, ça paraissait pas dans les journaux, c'était pas comme, ah, grand spectacle. Non, c'est ça. On était discrètes et on faisait des choses merveilleuses, je dirais. Et c'est parce qu'on mettait de l'avant notre imaginaire lesbien aussi, tu sais. On parlait de nous sur la scène, jamais, on parlait pas d'autre chose que de nous-mêmes, en fait, de notre collectivité, de notre communauté, de notre amour envers les filles, de ce qu'on vivait ensemble. Oui, c'est ça. Fait que bon, c'était pas toujours tout rose, ceci dit. En fait, dans les spectacles, oui, c'était bien, c'était notre imaginaire, elle est là. Puis on dénonçait des choses, on nommait des choses, tu sais. C'est ça qui était... On n'avait pas de censure non plus, tu sais.
C'était de l'art un peu politique, en quelque part, aussi.
Ben, oui, c'était aussi politique, tu sais. Mais je veux dire, on parlait de nous-mêmes, on pouvait dénoncer des choses, mais tu sais, on parlait pas des gars, on dénonçait pas... je veux dire, oui, on t'sais, le patriarcat, oui, c'est sûr. Et ça continue aujourd'hui, on regarde, tu sais, je veux dire, la guerre revient. Des fois, je me dis, mon Dieu, mais c'est les hommes qui devraient se faire une révolution, là. Tu sais, les femmes, on est toujours à l'avant pour défendre tout le monde. Mais, tu sais, c'est les deux hommes qui devraient dire, bon, on arrête de faire la guerre, tu sais, on descend dans la rue, on est tanné d'être... Mais c'est parce qu'ils ont tout à... Je sais pas,
ils ont tout à gagner de... Que ça ouais, reste comme
ben
ça.
Oui, toujours. Ouais, c'est ça, il faut, tu sais, c'est toujours la même chose qui se répète sur cette foutue terre encore, tu sais, c'est ça qui rend aussi... les gens un peu malades aussi, finalement, tu sais, c'est-à-dire... Mais c'était une époque, quand c'est drôle parce que souvent les plus jeunes appellent ça l'âge d'or des lesbiennes, je trouve ça cute. C'est un peu vrai en fait aussi, là. Bien que... Mais c'est aussi la grande force, c'est qu'on était en communication les unes avec les autres. On n'était pas, on n'avait pas de cellulaire ou Internet, oui, il était là, mais on faisait beaucoup en photocopie, puis on, tu sais, nos textes, on était en contact aussi, on répétait ensemble, tu sais, on répétait pas sur Zoom, mais on pouvait pas... Fait que, tu sais, quand t'es en contact, c'est une parle avec l'autre, donne une idée à l'autre, et c'est plus que... Genre être assis sur une chaise, être en train de regarder un ordinateur, la force, c'est d'être ensemble.
On se réunissait.
Physiquement, être ensemble aussi pour sentir, ressentir ce qui se passe vraiment.
Oui. Puis une des choses qui a changé, c'est les moyens financiers aussi. Vous aviez aucun moyen financier vraiment dans ce temps-là?
Non, pas vraiment, non. On se posait pas trop la question. On répétait. Tout était pas mal bénévole. Là.
Mm-hmm. On peut se réjouir que 25 ans plus tard, l'organisme existe encore puis est en bonne forme quand même.
Oui, bien, c'est important, je pense, qu'il y a un réseau.
Oui.
C'est important qu'il y ait un réseau, qu'on sache qu'on existe, qu'on soit là et qu'il puisse avoir des activités, des rencontres. C'est pour dire que cette pandémie-là, rien n'était pour aider, mais peut-être que le côté positif, ça fait comme, ouais, on a besoin de se recontacter, d'être en contact, de se voir, d'échanger aussi. C'est ça que je trouve qui est important, en fait. D'échanger politiquement, échanger nos idées, voir comment chacune voit les affaires, tu sais. Mm-hmm. Moi, je suis d'une autre génération, en fait, mais de voir comment la jeune génération vit les choses, les pense. Moi, je trouve que c'est ça qui est important pour qu'il y ait un mouvement plus fort aussi. Parce que, tu sais, on se faisait poser la question l'autre fois quand il y avait eu un visionnement de Réseau VDL, c'est les lesbiennes plus âgées de votre époque. Quand moi, j'avais 30 ans, les lesbiennes plus âgées, qu'est-ce qui se passait? C'était quoi votre relation? Mais les plus âgées, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait, elles étaient politisées, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je veux dire, 2, 3, 4, 5, 10. Parce qu'avant ça, les lesbiennes, les butch, moi, je disais que c'était plus celles qui vivaient à l'époque des années 50. Mmh. Elles, c'est encore plus cachées. Nous, on a vécu le féminisme, on était un peu cachées aussi. On n'osait pas d'être trop de l'avant parce qu'on défendait des causes féministes. Ministre, fait qu'on voulait pas trop se faire rabrouer ou enfin se faire dire « Ah, c'est des lesbiennes ». Mais je veux dire, les plus vieilles, c'était pas, elles vivaient encore plus, c'était plus une relation, des relations amoureuses qu'elles pouvaient vivre. Ben, en fait, aux États-Unis, peut-être qu'il y avait autre chose, des gens un peu plus organisés, ils avaient des petites revues, des trucs comme ça. Mais c'est ça, des plus âgés, nos modèles, c'était un peu... soit dans les livres, mais comme tel, des modèles de vis-à-vis. Moi, j'ai peut-être connu des femmes plus différentes. des lesbiennes. Je sais pas, je disais que c'était plus beau de femme, mais c'était pas que ça. Il y avait des lesbiennes plus âgées que moi qui auraient aujourd'hui 80, 85 ou qui ont déjà ça. Je pense à Diane Fernandes qui, elle, était là, qui a 80 aujourd'hui. Mais ça a commencé dans les années 75, c'est avec l'année internationale de la femme que tout ça a commencé à bouger au Québec un petit peu avant, les années 70, début 73 même, en fait.
Tu participais aussi activement à les Tribades. Tu as d'ailleurs participé au Salon des Tribades à Paris. Peux-tu nous parler de cette expérience?
Oui, le Salon des Tribades, qui, ça, c'est Sun Boisvert aussi, avec deux autres filles. Il y avait Martine, j'oublie son nom, et Myriam Saad qui était là, André Dumouchel. En fait, c'était un salon qui permettait justement de faire des improvisations, mais aussi de préparer des petits numéros. Ça pouvait être des scènes, si tu veux, qui pouvaient durer, 20 minutes, une demi-heure, ou étaient mêlées parce qu'on était... Il y avait des filles musiciennes, il y avait des danseuses, plus théâtre, chanteuses, et on pouvait faire un amalgame, justement, de tout ça, dans un spectacle. Tu sais, quelqu'un peut arriver, c'est pas un spectacle qui durait 2 heures de temps ou 1 heure et demie de temps, ça pouvait être justement différents numéros qui étaient présentés, qui pouvaient durer une demi-heure, quelqu'un d'autre présentait autre chose, après, ça durait 20 minutes, 15 minutes. Ça allait selon ce que chacune avait envie de parler aussi, tu sais.
Okay.
Et on pouvait mettre ça ensemble et ça formait une soirée des tribades où est-ce que les lesbiennes étaient invitées à venir voir ce que d'autres lesbiennes avaient concocté pour présenter à d'autres. À Paris, alors excuse-moi, je reviens à ta question, à Paris, c'était à la Maison des femmes de Paris qu'on avait été invitées. C'était les fiertés à Paris et donc fierté lesbienne, fierté gay lesbienne. Donc, on avait présenté déjà quelque chose qu'on avait cogité ici, là. Et puis, il y avait un peu d'improvisation. On avait rencontré les filles là-bas, mais je crois qu'on avait comme travaillé plus que nous, on avait à présenter.
Génial, mais merci beaucoup, Jeanne Bergeron, pour cette entrevue et au plaisir de te voir au 25e anniversaire du RLQ.
C'est fini! OK, cool. Je t'embrasse, merci. Puis, on va sûrement se voir le... C'est le 18 juin, hein?
Oui, 18 juin à 13h.
OK. Je serai là.
Merci beaucoup.
Allez, t'embrasse. Merci.
Aussi.
Bye-bye. Ciao tout le monde.
On s'en va en musique avec Allo Sexuel de Claude Lanthrop.
Nous sommes les lettres de l'alphabet, les parias de la nature. Nous sommes l'anecdote, le méfait, le désir assumé de l'impur. Nous sommes la déviance, l'imparfait, devant l'universelle figure. Nous sommes la nouvelle épistémée, amoureux plutôt que créature. We'll be right back.
Nous recevons maintenant la directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec depuis 5 ans, qui fait un travail extraordinaire. Salut Julie-Antoine.
Salut Nathalie.
Vous avez vraiment travaillé fort, particulièrement cette année avec le 40e anniversaire de la JVL qui a eu lieu en avril et le 25e anniversaire du RLQ qui arrive à grands pas, soit le 18 juin prochain. Il y a 25 ans, les avancées juridiques en matière des droits LGBTQ+, n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Par contre, l'égalité sociale est toujours un combat quotidien et force est d'admettre que les femmes de la diversité sexuelle tendent encore aujourd'hui à être invisibilisées, et ce même au sein de la communauté LGBTQ+. Comme tu es au front à l'année pour défendre nos intérêts, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi, selon toi, c'est si difficile de faire reconnaître notre réalité encore aujourd'hui, en 2022.
Je pense que c'est encore difficile de faire reconnaître nos droits aujourd'hui parce que, premièrement, on est des femmes, puis les droits des femmes sont constamment questionnés et remis en question. Donc, c'est sûr que des femmes qui aiment les femmes, on a un double combat du fait que, on est encore plus questionnés sur notre légitimité d'exister, de prendre la parole, d'investir l'espace public. Donc, c'est compliqué parce que c'est historique. Puis, justement, tu parles du 25e anniversaire de la RLQ. On le voit notamment à travers l'histoire, les enjeux d'invisibilisation des lesbiennes, la dissociation de certains groupes, de certains espaces, pour justement dénoncer cette invisibilisation constante, cette réappropriation des enjeux lesbiens au détriment des lesbiennes elles-mêmes. Donc, c'est clair qu'il y a plusieurs enjeux, mais je pense qu'à la base, c'est une question du fait qu'on est femme et la liberté des femmes n'est pas encore acceptée dans la société. Et on le voit à travers le monde présentement, notamment.
Une des choses qui a changé par rapport à il y a 25 ans, c'est qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'aide financière de différentes instances gouvernementales, ce qui permet d'avoir une équipe de travail solide au sein du RLQ. D'ailleurs, Julie Vaillancourt et Cassandra Rivet vont présenter une partie de leur travail lors du 25e anniversaire. Est-ce que tu peux nous en glisser un mot?
Ben oui, bien sûr. Cassandra, c'est notre jeune archiviste qui a dépouillé toutes les boîtes d'archives qu'on avait au RLQ et qui a reconstitué l'histoire en lisant les mémoires qui ont été faites et tout. Donc, la première conférence de cette journée va être une revue de l'historique, en fait, des actions politiques que le RLQ a menées à travers ces 25 dernières années. Et on a créé un cahier aussi historique pour cette journée, spécialement pour les personnes qui seront présentes. Donc, vraiment un travail incroyable. Et elle a collaboré avec Julie Vaillancourt, qui est journaliste au FUG notamment et qui est impliquée dans les luttes LGBT, les luttes lesbiennes depuis plusieurs années. Elle a notamment travaillé sur le rapport de l'illégalité à l'égalité juridique qui a été fait en 2007 avec Monique Audet. Et aujourd'hui, elle termine les dernières lignes, en fait, d'un livre d'archives qui, selon nous, doit passer à l'histoire et doit surtout passer dans les institutions publiques pour ne pas oublier l'histoire des lesbiennes, l'histoire des communautés des femmes LGBT au Québec et ailleurs dans le monde, parce que ce livre d'histoire qui a été rédigé en fait par Julie, là, je pense que je l'ai pas dit au complet, par Julie, avec un comité aviseur composé de Dominique Bourque, Lynn Chamberlain et moi-même, donc qui part de Lesbos, donc la mythologie jusqu'à aujourd'hui, en 2022, toute l'histoire de nos communautés, parce qu'il faut pas oublier que toute l'histoire a été écrite par des hommes, pour les hommes, et a été écrite par les vainqueurs. Donc, c'est toute une question de réappropriation et aussi de colliger, en fait, l'information dans un document. C'est beaucoup plus facile après d'avoir accès. Et le livre est très, très, très imagé. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il change un peu du complexe du livre d'histoire, un peu très axé sur les mots et sur les dates. Ce livre-là va amener une autre image, c'est-à-dire des images de notre histoire. Donc, vraiment, ça va être une première. Et le 18 juin prochain, au 25e, on va lancer le premier tome en édition spéciale. Et c'est cette édition spéciale qui va être distribuée dans plusieurs archives et bibliothèques à travers le monde, en fait.
À quoi d'autre est-ce qu'on peut s'attendre lors du 25e anniversaire? Et est-ce que c'est ouvert à toutes?
Oui, c'est ouvert à toutes. C'est un événement entièrement gratuit. On a le droit à 3 conférences. Donc, déjà, il va y avoir une conférence de Cassandra Rivet, comme j'ai dit, sur l'histoire du RLQ. Il va y avoir une conférence avec les ambassadrices du 25e.
Oui. Il y a 4 ambassadrices.
Oui, Martine Roy, Nicole Lassel, Eugénie Épine Blondeau et Tamara Weber-Fillion. Et ensuite, on va finir sur une conférence sur le livre d'histoire, en fait, avec Julie Vaillancourt, Dominique Bourque et Lynn Chamberlain. Tout ça, ça va être suivi par le dépôt légal de ce livre d'archives, de ce premier tome. Et ensuite, on va terminer par un petit 6 à 8, là. C'est facile de dire 5 à 7, mais 6 à 8 festifs pour finaliser, en fait, pour tourner la page sur ce quart de siècle.
Génial.
Sans l'oublier.
Oui, donc il n'y a pas besoin d'avoir d'inscription. Les filles peuvent se rendre directement à la banque cette journée-là, le 18 juin prochain, à partir de 13h.
Ah oui, oui, oui. Puis c'est vraiment un événement, il faut être là.
Absolument. 25 ans, ça se fête. Merci beaucoup, Julie-Antoine. À bientôt.
Merci.
Un grand merci à nos invités Nicole Lasselle, Suzanne Boisvert, Jeanne Bergeron et Julie-Antoine. On vous invite à assister au 25e anniversaire du RLQ qui se tiendra à la Banque au 535 Avenue Vigée-Est à Montréal le 18 juin prochain dès 13h. Aucune réservation n'est requise et on vous veut en très grand nombre. Merci d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous le 20 juin prochain pour une autre émission de Lesbosons. À très bientôt.
Pourquoi faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire?